Laurent Bérébi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président fondateur de Global Macro Finance. On va parler avec vous d'économie et de perspectives économiques. Comment vous regardez ce qui se passe, pour commencer peut-être aux États-Unis? On a eu un certain nombre de chiffres qui ont été plutôt favorables au cours des derniers mois. Il y a encore beaucoup de questions sur cette économie américaine. Comment vous la sentez-vous?
Personnellement, je pense que les États-Unis sont dans un réel schéma de reprise. On est en pleine reprise aujourd'hui. Plusieurs indicateurs le montrent, notamment des indicateurs qui sont au plus haut maintenant depuis 2004-2005, voire depuis la reprise de 1993. Et ces indicateurs sont assez significatifs de la nette amélioration des anticipations des chefs d'entreprise. C'est très positif, cette amélioration est très positive pour les perspectives d'investissement de la part des entreprises, pour les perspectives d'embauche également. Les créations d'emplois sont sur un rythme moyen depuis le début de l'année de 200 000 par mois. Ceci devrait se confirmer, voire même s'affirmer au fil des mois dans les prochains mois. Et donc au total, on peut tabler sur une poursuite des créations d'emplois sur un rythme soutenu, une poursuite de la baisse du taux de chômage. Et donc finalement, une reprise qui sera également alimentée par des gains de pouvoir d'achat d'origine salariale et donc la consommation des ménages. Donc on voit bien que tous les éléments de la demande intérieure, y compris d'ailleurs l'immobilier résidentiel qui devrait être plutôt favorisé par la baisse des taux longs récentes que l'on a connue, donc y compris l'immobilier résidentiel, va contribuer à cette reprise américaine. Alors il y a un autre élément qui est tout aussi favorable que cette reprise de toutes les composantes de la demande intérieure, c'est le développement de la production d'hydrocarbures de schiste. Ceci est très favorable à la fois pour les exportations directement, mais aussi pour l'amélioration de la compétitivité de l'économie américaine. Et donc au total, finalement, on est très confiant sur l'économie américaine. Ceci signifie que la Réserve fédérale devra relever ses taux d'intérêt probablement dès le début du deuxième trimestre, c'est-à-dire aux alentours de avril-mai, aux
Donc
États-Unis.
le débat au sein même de la Fed, hein, pour même peut-être aller plus vite, il est
Même
du
aller plus
coup
vite, et
légitime.
c'est légitime parce que, encore une fois, il n'y a plus de raison aujourd'hui, non seulement d'avoir un quantitative easing, donc ceci devrait se terminer le mois prochain, mais également d'avoir des taux d'intérêt à 0%. Alors, certains évoquent, pour éloigner finalement cette échéance hein, du premier relèvement des taux directeurs, certains évoquent un marché de l'emploi qui reste finalement qu'à un quart. C'est pas notre vision parce que même si le taux de chômage est à 6%, c'est-à-dire des niveaux qui sont encore sensiblement supérieurs à ce qu'on avait avant la crise, pour nous, le taux de chômage de long terme est remonté sensiblement. Et le niveau de 6% est probablement aujourd'hui le taux de chômage de long terme de l'économie. Donc ça signifie qu'on ne pourra pas aller beaucoup, beaucoup plus bas que le 6%. Et donc au total, la Réserve fédérale se doit aujourd'hui de relever ses taux directeurs.
Donc on a effectivement plutôt de ce côté-là de bons signaux de votre point de vue. Côté européen, on a tendance à faire effectivement à voir le contraire,
Oui.
hein, avec des questions sur comment on va pouvoir relancer cette économie européenne. On a vu la Banque centrale européenne essayer un certain nombre de mesures. On est toujours bloqué en Europe sur la croissance?
Alors c'est pire que ça d'ailleurs, c'est pas seulement bloqué, il y a quelque chose de fondamental qui s'est passé durant l'été. En fait, on a assisté à un retournement des anticipations des chefs d'entreprise. En général, enfin dans quasiment tous les pays européens, excepté en Espagne, et donc y compris en Allemagne. Alors que la demande intérieure allemande est toujours alimentée par un investissement résidentiel qui est très robuste, qui est favorisé notamment par le niveau très faible des taux longs, et par un niveau également très peu valorisé de l'immobilier résidentiel, mais également est alimentée par la consommation qui devrait continuer à bénéficier de gains de pouvoir d'achat d'origine salariale très conséquents, du fait des augmentations de salaire très importante dans le secteur des services, en prévision de l'imposition du salaire minimum généralisé en Allemagne pour 2015. Donc finalement, il n'y a pas de raison interne à ce retournement des anticipations des chefs d'entreprise, ce sont des raisons extérieures. Et ces raisons extérieures, ce ne sont pas les exportations, parce que finalement, le rythme de croissance des exportations il est relativement modéré, voire modeste, mais il ne se retourne pas. En fait, ce sont probablement des raisons géopolitiques, et c'est directement probablement lié au conflit ukrainien, qui a aujourd'hui beaucoup plus d'impact sur les anticipations et les perspectives générales des chefs d'entreprise allemands qu'en France. Et donc, ça, c'est excessivement inquiétant, parce que S'il y a retournement des anticipations des chefs d'entreprise en Allemagne, ça signifie qu'il y a une dégradation des perspectives d'investissement en Allemagne. Et donc, on ne peut plus compter, alors que c'était le cas auparavant, on ne peut plus compter sur la locomotive allemande pour tirer la zone euro. Ça, ça a modifié beaucoup les choses et les perspectives au sein de la zone euro, à la fois en termes de croissance, à la fois en termes d'inflation. Et puis, il y a un autre point, c'est qu'on a toujours des économies qui sont qui se retrouvent aujourd'hui toujours avec des problématiques structurelles importantes. Ces deux économies majeures sont l'Italie et la France. La France en particulier, on sait très bien qu'on a aujourd'hui un déficit de compétitivité structurelle très important qui nous fait énormément de tort sur les échanges extérieurs en général, que ce soit sur les exports ou sur les importations. Et puis, on a également, finalement, c'est la contrepartie, enfin, c'est la conséquence de ça, ce sont des perspectives d'investissement de la part des entreprises qui sont très faibles. Alors, il faut voir que, contrairement au discours ambiant, l'investissement des entreprises en France est à un niveau relativement élevé, lorsqu'on compare ça, par exemple, à l'Allemagne. Et donc, finalement, le sujet aujourd'hui, ce n'est pas tant le niveau d'investissement, mais c'est la quantité d'investissement rentable. Puisque qui veut dire investissement veut dire automatiquement perspective bénéficiaire pour que ces perspectives bénéficiaires futures soient à l'origine de futurs investissements et de futures embauches. Et donc aujourd'hui, on a un manque d'investissement rentable en France qui est très important, qui est directement lié à la compétitivité, au manque de compétitivité structurelle de l'économie française. Et donc au total, on ne voit pas comment l'économie française pourrait sortir justement de cette, on va dire, de cette stagnation, parce qu'on a un investissement qui baisse du côté entreprise, on a un investissement résidentiel qui baisse aussi parce que le niveau des prix de l'immobilier sont beaucoup trop élevés, l'investissement résidentiel qui baisse aussi, heureusement que les taux longs baissent parce que sinon ça aurait été beaucoup plus important que ça, et puis on a des échanges extérieurs qui contribuent négativement à la croissance. Au total, la croissance française aujourd'hui est autour de zéro grâce à la consommation. Et la consommation augmente parce qu'il y a des gains de pouvoir d'achat importants. Mais ces gains de pouvoir d'achat ne sont pas une bonne nouvelle, paradoxalement. Pourquoi ? Parce que c'est la contrepartie d'augmentation de salaire beaucoup trop importante au niveau des entreprises compte tenu du niveau de gains de productivité qui sont générés par les entreprises. Donc c'est la contrepartie de la dégradation supplémentaire de la compétitivité des entreprises. Et puis c'est la contrepartie également de la hausse toujours constante. Si on a à peu près le même niveau constant, de rythme de croissance constant des prestations sociales, qui rajoute tous les ans un point de gain de pouvoir d'achat. Donc au total, finalement, c'est la contrepartie du creusement du déficit budgétaire. Et compte tenu…
On voit les reports annoncés.
Voilà, les reports annoncés. Et ces reports-là sont tout à fait logiques, compte tenu à la fois des perspectives de croissance. Donc nous, la France, elle est plutôt sur un rythme de 0,3% cette année. Et 0,7% l'année prochaine. Et compte tenu également des perspectives d'inflation, on est aujourd'hui, on va être plutôt avec une inflation autour de 0,5% cette année et de 0,4-0,3% l'année prochaine. Donc compte tenu d'un faible niveau de croissance et d'un faible niveau d'inflation, on a des recettes fiscales qui font défaut. Et donc au total, on anticipe un creusement du déficit budgétaire, 4,4% de l'année dernière, 4,4% cette année, 4,6% l'année prochaine, y compris… Donc, en tenant compte des réductions de dépenses qui ont été annoncées et qui devraient être tenues. Donc, on voit pertinemment que sans relance de la croissance, et quand je dis relance, c'est encore une fois, ce n'est pas du côté de la consommation, parce qu'on voit bien que la consommation est là. Donc, sans relance du point de vue de la croissance, sans remonter des perspectives d'inflation, eh bien, on va probablement connaître une dérive progressive du déficit budgétaire.
Donc ça va être effectivement le sujet, c'est le sujet du moment à traiter.
C'est le sujet du moment à traiter. Alors ça signifie que pour la politique économique, il faudra répondre probablement à un triptyque, donc une triple problématique. Première problématique, amélioration, nette amélioration de la compétitivité structurelle des entreprises. Deuxième problématique, c'est le niveau des prix de l'immobilier qui sont très élevés aujourd'hui et qui empêchent finalement toute reprise durable du point de vue de l'investissement résidentiel. Et troisième problématique, c'est la réduction du déficit budgétaire et ce, sur les années qui viennent.
Le mot de la fin peut-être sur les pays émergents, parce que là aussi, on a eu quand même un certain nombre d'inquiétudes. On a vu le Brésil tomber en récession. Je dirais qu'on parlait toujours de ces pays émergents, de cette croissance des pays émergents. On a vu que c'était aussi possible qu'il y ait des coups de frein.
Oui.
Comment vous voyez les différents pays émergents, ceux qui comptent.
En fait, on assiste à une disparité assez nette de situation entre les grands pays émergents. Donc, on dit les BRIC pour faire simple. Le Brésil est en récession. Et cette récession n'est pas seulement technique, elle est structurelle du fait d'une compétitivité brésilienne qui est vraiment très inquiétante et qui est la contrepartie de la politique économique qui a été menée jusqu'alors, jusqu'à maintenant et qui continue à être menée, c'est-à-dire une politique économique qui est orientée vers la distribution du pouvoir d'achat pour favoriser l'essor de la classe moyenne, mais au détriment de la dégradation de la compétitivité des entreprises parce que les gains de productivité ne suivent absolument pas ces distributions de gains de pouvoir d'achat d'origine salariale. Donc la récession n'est absolument pas terminée. On peut assister à un rebond sur les mois qui viennent, mais globalement, le Brésil va rentrer dans une crise probablement assez profonde. Du côté de la Chine, on assiste plutôt à une stabilisation de la croissance, autour de 7%, 7,5% entre les deux, on va dire, grâce à des mesures de relance de politique économique très ciblées, à la fois sur les petites et moyennes entreprises, à la fois sur certains travaux d'infrastructure. Je ne suis pas finalement inquiet de l'éclatement, on va dire, de la bulle immobilière, parce que la Chine a les moyens justement d'éviter cet éclatement-là et donc d'avoir un atterrissage en douceur du côté de son immobilier. Et puis, on peut citer également le cas de l'Inde, où il y a un net redémarrage de l'économie, un redémarrage qui finalement touche l'ensemble des composantes de la demande. Alors ça a commencé par les exportations qui ont bénéficié de la dépréciation de la roupie indienne, et puis ça s'est poursuivi avec un net rebond de la consommation des ménages qui a fait suite à l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement. Et puis aujourd'hui c'est en train d'être transmis à l'investissement des entreprises. Donc là on peut être relativement confiant sur la croissance indienne qui devrait tourner autour de 5% cette année comme l'année prochaine.